Biologie naturelle, 6 juin 84, Père Philippe.
C'est ce qui est bon vu en tant que bon, tandis que ce qui est en tant que
terminer cet article quatrième sur le bien comme cause finale. Il faut bien saisir ce que ça représente. La différence qui existe entre le bien, quand vous dites le bien, et quand vous dites cause finale, c'est pas si commode que ça à bien saisir. Qui dit cause dit nécessairement relation à un autre. Tandis que ce qui dit bien dit simplement la réalité considérée en elle-même. Alors, la réalité en elle-même peut avoir un rayonnement, si vous voulez, c'est ce qu'on appellerait comme une espèce de rayonnement. Le bien, c'est ce qui attire, ce qui suscite un amour. Et alors le bien va susciter un amour particulier qui fait que justement cet amour est fondamental et ultime, et c'est pour ça qu'on dira que le bien est cause finale. Alors, je ne vous rappelle pas ce qui avait été dans le corps de l'article, je crois que c'est suffisamment net d'après tout ce qu'on a dit précédemment, enfin, c'est tout simplement montrer comment la causalité finale est cause des causes. C'est l'expression qu'Aristote prendra et que Saint Thomas reprendra, n'est-ce pas ? Le bien est ce que tout être désire, et puisque c'est cela qu'on appelle une fin, il est manifeste que le bien répond à ce qu'est la fin, c'est-à-dire que le bien apporte la raison de la fin. Néanmoins, cette notion de fin présuppose celle de cause efficiente et de cause formelle. Car, donc, c'est la cause efficiente qui n'est pleinement cause efficiente que par la fin. Tandis que la fin, elle, est parfaitement fin par elle-même, et pas par la cause efficiente. Oui, c'est ce qu'ensuite on dira, et c'est ça qui a fait dire que la causalité finale est une causalité métaphorique. Ce qui est faux. C'est une causalité réelle, elle n'est pas métaphorique. Car nous voyons que ce qui est premier pour la causalité est dernier dans les faits. Par exemple, le feu échauffe le bois avant de lui communiquer sa nature de feu, bien que dans le feu, la chaleur soit une émanation de sa nature, de sa forme substantielle. Ici donc, dans l'ordre de causalité, nous trouvons d'abord le bien qui est fin et qui met en œuvre la cause efficiente. Ensuite vient l'action de cette cause efficiente qui meut à la forme nouvelle. Et enfin vient la forme qui réalise l'effet. Dans l'effet même, l'analyse devra donc révéler un ordre inverse. On trouvera d'abord la forme qui détermine l'être. Dans cette forme, on découvrira une vertu active qui appartient à l'être en tant qu'il est achevé. Car un être n'est achevé, comme l'observe le philosophe, que lorsqu'il peut engendrer son semblable. Et enfin, on trouvera justifier la notion du bien qui est le caractère du parfait. Donc ce qu'il faut retenir dans ce corps de l'article, c'est cette double analyse, l'analyse de la causalité et l'analyse de l'effet. Et de montrer que l'analyse de la causalité n'est pas la même que l'analyse de l'effet. Dans l'analyse de la causalité, on part du plus parfait, de la cause par excellence. Et à partir de la fin, on voit toutes les autres. Tandis qu'au contraire, à partir de l'effet, la première chose qu'on voit, c'est sa détermination. Et par la détermination, on remonte à la fin. C'est très intéressant, je crois, de bien comprendre cela. Parce que beaucoup de confusions proviennent du fait qu'on ne voit pas assez l'ordre différent des causes et l'ordre différent des effets. Alors, je prends tout de suite, je crois qu'on était resté à la dernière objection. De son côté, saint Augustin écrit « C'est parce que Dieu est bon que nous sommes bons. Il voit donc dans le bien divin une cause efficiente. » Donc, ramener la causalité du bien à l'efficience et oublier que la causalité du bien a quelque chose de tout à fait propre qui est la finalité. Le bien attire et la cause efficiente pousse. Comme ça, vous avez quelque chose qui vous montre bien la chose. Quand vous êtes cause efficiente, vous courez pour rejoindre l'effet. Tandis qu'au contraire, quand vous êtes cause finale, quand vous êtes bien, vous attirez. C'est tout. Vous voyez, deux espèces d'apostolat. On ne va pas dire, ne mettez pas de mots. On a deux espèces d'apostolat. L'apostolat de celui qui attire, ce que doit être un couvent contemplatif. Il doit être une oasis qui attire. Et alors, la vie plus active, j'ai dit la vie active, parce que la vie apostolique, elle fait le lien entre les deux. Elle doit être contemplative et elle doit impliquer aussi une certaine efficacité. C'est le propre de la vie apostolique, ça. Mais la vie active, proprement dite, court après, pour garder le contact. Parce qu'on ne peut agir au point de vue de causalité efficiente que si on a contact. Et si on n'a plus contact, on ne peut plus agir au point de vue de la causalité efficiente. C'est pour ça qu'on a tellement peur de perdre contact. On a tellement peur de ne plus parler le langage des autres. On a tellement peur de ne plus être adapté. Parce qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de contact. Très curieux, ça, mais c'est très intéressant. Vous savez, faire la métaphysique de ce que représente le bien comme cause finale et la métaphysique de ce que représente la cause efficiente, ça explique beaucoup de choses dans le monde et dans notre vie. Alors, il faut regarder les conditions pour l'exercice de la causalité finale. Et les conditions pour l'exercice de la causalité efficiente. Pour que la causalité efficiente puisse s'exercer, il faut le contact. C'est évident, quand vous voulez enfoncer une vis, hein, avec un instrument particulier qui est un tournevis. Il faut que le tournevis touche la vis. Autrement, votre tournée sera intentionnelle, ne sera pas efficace. J'ai tourné, mais vous avez oublié de mettre le tournevis sur la vis. J'ai oublié. Il n'y a pas eu de contact. C'est comme ça dans le point de vue. Enfin, si vous parlez un langage totalement différent, c'est le tournevis qui ne touche pas la vis. Donc, la condition sine qua non pour qu'il y ait causalité efficiente, il faut qu'il y ait contact. Alors, au bout d'un certain temps, on oublie la causalité, on ne voit plus que la condition sine qua non. Ça, c'est notre monde d'aujourd'hui depuis Kant. Kant ne voit plus la causalité, mais les conditions sine qua non. Et on fait des conditions sine qua non de la causalité. Alors, il faut bien, donc, le contact. C'est le contact qui permettra l'efficience. Le contact implique l'adaptation. Conditions sine qua non. Vous voyez, vous désingrez de plus en plus dans les conditions sine qua non. Et vous oubliez ce qu'est la causalité. Les conditions sine qua non ne sont pas la causalité. La causalité sont autre chose. Mais pour l'exercice de telle cause, il faut telle ou telle condition. Quelle est la condition sine qua non pour la causalité finale? La causalité finale cause sans toucher, donc sans contact, puisqu'elle attire, elle suscite un amour, donc elle attire, c'est le bien. Mais le bien, ce n'est pas la condition sine qua non de la causalité finale. Puisque si la causalité finale, c'est la raison de la causalité finale, quelle est la condition sine qua non pour la causalité finale? Mais je le vois très bien pour la causalité efficiente. La causalité sine qua non, c'est le conditionnement. Ce qui est très extraordinaire quand il s'agit de la causalité finale, il n'y a plus de condition. Je crois. Il n'y a pas de conditionnement. Il suffit que le bien existe pour qu'il attire. Le bien n'a pas besoin de s'adapter. C'est le dernier souci du bien de s'adapter. Il attire. Il suscite un amour. Pas de condition sine qua non. Pas de conditionnement nécessaire. Tandis que c'est nécessaire pour la cause efficiente. Il faut y réfléchir, ça va très loin. Hein. Ça va très loin dans la vie. Il faut être bon. Ah, faut être bon. Alors, l'homme n'est bon. Je prends la personne humaine ici. La personne humaine n'est bonne que quand elle est reliée à sa source. Quand elle est reliée à Dieu. Il faut donc la contemplation pour la causalité finale. Si vous êtes contemplatif, vous êtes bon. Et vous attirez. Si vous ne l'êtes pas, alors évidemment, vous n'êtes pas bon et vous n'attirez pas. Donc, vous voyez, la condition sine qua non, ce n'est pas une condition sine qua non, c'est tout simplement la bonté comme telle. C'est ça qui toujours effarouche les gens. Vous avez des méthodes ici. Il n'y en a pas ici. C'est ça qui est très curieux. Parce que les méthodes se prennent toujours du côté de la condition sine qua non. Ça, vous pouvez le voir. Donc, vous avez des méthodes du côté de la cause efficiente. Vous n'avez pas de méthode du côté de la causalité finale. Alors ça, quelles sont vos méthodes? La contemplation. Ce n'est pas une méthode, c'est une vie. C'est une vie. C'est le point de vue de la vie. La vie contemplative, c'est une vie. Ça vous prend tout. Alors comme ça vous prend tout, vous n'avez pas le temps de chercher les méthodes. Vous n'avez pas besoin, c'est substantiel. Il n'y a pas de méthode du côté de la substance, on est. C'est pour ça que la substance subsiste. Parce qu'il n'y a pas de méthode. Tandis que du côté de la causalité efficiente, il y a des méthodes. Ça, c'est sûr, il y a des trucs. Il y a une stratégie. Du côté des stratégies pour s'adapter, pour être en contact, pour maintenir le contact, et ainsi de suite. Du côté de la causalité finale, c'est-à-dire du bien, non. Ça, il faut y réfléchir longuement. C'est très important. C'est très important. Le souci dominant de quelqu'un qui est dans la vie active. Le souci dominant de quelqu'un qui est dans la vie active, c'est de garder le contact. Ah, je ne lui ai pas écrit depuis 15 jours. Il y a quelque chose qui ne va plus, il ne m'a pas écrit depuis 15 jours. Il faut garder le contact. C'est très important ce que je dis là, c'est pas du tout, vous voyez, c'est pas du tout pour mépriser la causalité efficiente, c'est pour voir la spiritualité différente des deux. C'est pour voir ce qui est tout à fait différent d'un côté et de l'autre. Quand vous êtes dans la vie active, si Dieu vous plonge dans la vie active, il vous plonge dans la vie active. Saint Vincent de Paul qui disait, je n'ai pas encore rencontré de pauvre dans ma journée. Je n'ai pas vu le visage de Dieu, le souci du contact. Tout à fait différent du contemplatif qui regarde Dieu et qui veut tout voir en Dieu. Et les deux, hein, les deux aboutissent à la sainteté. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a qu'une sorte de sainteté, la sainteté de la vie contemplative. La sainteté est au-delà de la distinction vie active et vie contemplative. Hein. La sainteté est au-delà. Et la sainteté finalise la vie chrétienne. Ce n'est pas uniquement la vie contemplative, c'est la sainteté, c'est d'accomplir la volonté du Père, c'est ça qui importe. Et c'est ça qui est le principal, c'est d'accomplir la volonté du Père. Dieu nous demande d'être contemplatifs, très bien, soyons-le. Dieu nous demande d'être actifs, soyons-le. Et soyons-le jusqu'au bout, c'est-à-dire totalement. C'est ça le propre de la sainteté, c'est que la sainteté exige quelque chose d'absolu, de ne pas être à mi-mesure, parce que c'est la charité. La charité qui dépasse la contemplation. Et c'est vrai que la charité dépasse la contemplation. Un contemplatif qui dirait « Moi, je suis un contemplatif et uniquement un contemplatif et je n'ai pas besoin d'aimer mes frères. » Ah, attention, il retomberait dans une contemplation qui serait philosophique et ne serait pas la contemplation chrétienne. La contemplation chrétienne, elle est à l'intérieur de la charité et pour la charité. Mais c'est tout le problème de la contemplation philosophique et de la sainteté. C'est deux problèmes différents et c'est un problème qui est vraiment très important. Alors, voyons bien ici. Quant au mot, donc la réponse de saint Thomas, quant au mot de saint Augustin, il ne prouve pas que la bonté de Dieu agisse à notre égard comme cause efficiente. En effet, un agent volontaire est dit bon quand sa volonté est bonne. Car c'est la volonté qui est en nous le moteur universel. Aussi ne dit-on pas qu'un homme est bon parce qu'il a l'esprit bon, mais parce qu'il a une volonté bonne. Or, l'objet propre de la volonté est la fin. Alors, ce que dit saint Thomas, or, la volonté respicit finem ut objectum proprium. J'aime mieux, hein. Une petite distinction, mais une petite nuance. Mais ça m'étonne que saint Thomas dise que l'objet propre de la volonté, c'est la fin. La volonté regarde la fin comme son objet propre. Ut objectum proprium. Et vous voyez, ça c'est très très curieux, parce que ça montre que l'objet comme tel, c'est toujours du côté de l'intelligence. Dès qu'on est du côté affectif, ce n'est plus le langage de l'objet comme tel. C'est le langage de la fin et des moyens. Et la fin joue le rôle d'objet. Mais joue le rôle d'objet. Ut objectum. Il faut être sensible à ça si on veut maintenir la rigueur de saint Thomas. Hein. Donc la volonté regarde la fin comme objet propre. Et ainsi il est dit, parce que Dieu est bon, nous sommes bons. Et ceci se réfère à la cause finale. Oui, donc il y a quelque chose de très très intéressant ici. Le refertur, hein, refertur ad causam finalem, c'est cette manière de rattacher la cause finale au bien. Alors que l'objection voulait rattacher le point de vue de la causalité, le bien à la cause efficiente. Saint Thomas, non, c'est faux, c'est pas direct, parce que le propre justement du bien, c'est de susciter un amour. Et au fond, c'est ça, cette idée profonde, le bien suscite un amour. Et donc, il est du côté de la causalité finale. Article 5. Alors ça, c'est un article très intéressant. Il est facile, du reste, mais il est très intéressant, parce qu'il va montrer comment, du côté du bien, saint Thomas apporte quelque chose de nouveau par rapport à Aristote. De sorte que vous savez bien... Lorsqu'on veut comparer la métaphysique de saint Thomas à la métaphysique d'Aristote, la philosophie première de saint Thomas à celle d'Aristote, ce n'est pas du côté de l'essai qu'on doit faire la vraie différence, c'est du côté du bien. Et là, il y aurait pas mal de choses à montrer et qui seraient très intéressantes. Vous voyez, pour Gilson et pour Martin et pour le père Geiger et pour Fabreau, c'est-à-dire toute une série de thomistes, hein, la différence entre la philosophie première d'Aristote et celle de saint Thomas, c'est la question de l'essai. La métaphysique de saint Thomas regarde l'essai. La métaphysique d'Aristote regarde l'usina. Ça, c'est net. C'est depuis Gilson. Et tous ont répété Gilson avec des modalités différentes. Ils ont tous répété ça. Et Gilson dit carrément que la métaphysique d'Aristote, c'est Nousia. Et la métaphysique de Saint Thomas, c'est l'essai. On ne peut pas dire que la philosophie première d'Aristote, c'est Nousia, parce qu'il y a toute la grande découverte de l'être en acte, qui pour Aristote dépasse le point de vue de Nousia. Donc je ne peux pas dire que c'est cela. Je peux dire que c'est l'être en acte. Or, l'essai pour saint Thomas se définit par l'être en acte. Donc, la métaphysique de l'essai, c'est la métaphysique de l'être en acte. Tandis que si je veux voir la différence de la philosophie première de saint Thomas et d'Aristote au niveau du bien, là, je peux dire qu'il y a des différences. Autrement dit, c'est du côté du bien que je dois préciser la différence qui existe entre la métaphysique d'Aristote et celle de saint Thomas. Et vous allez le voir tout de suite avec l'article que nous allons voir. La notion de bien implique-t-elle le mode, l'espèce et l'ordre? Et l'article après, le bien est-il correctement divisé par l'honnête, l'utile et le délectable? Donc ces deux articles vont nous montrer quelque chose de très important par rapport à la notion du bien chez saint Thomas comparativement à celle d'Aristote. Vous allez voir. Je prends tout de suite le corps de l'article. Saint Augustin écrit. Vous voyez, alors ça c'est toute l'influence augustinienne. Saint Thomas va assumer saint Augustin. N'oubliez jamais ce que le père Chenu aimait de dire, là il avait raison, il aimait de dire que si on regarde saint Thomas, il faut toujours se rappeler le trépied de saint Thomas, l'oracle de Delphes. Il y a Aristote, il y a saint Augustin, il y a Denis. Il y a les trois. Et c'est vrai. Vous pouvez dire saint Thomas fait la synthèse des trois. Pas du tout. Saint Thomas utilise les trois. Il utilise Aristote, il utilise saint Augustin, il utilise Denis. Et c'est très difficile de. Je ne peux pas dire que dans saint Thomas, il n'y a que Aristote. Non, non, non. Il y a Aristote, c'est évident, il y a Aristote. De façon primordiale, c'est le philosophe. C'est le philosophe. Saint Augustin, c'est la grande tradition chrétienne. Donc, un théologien doit être sensible à ça. Et Denis, c'est une grande tradition grecque. Oui, alors vous avez la tradition latine et la tradition grecque. C'est quand même intéressant de voir ça. Et que saint Thomas et puis Aristote. Alors le philosophe, c'est Aristote, et puis les deux aspects de la tradition chrétienne, Augustin et Denis. Et alors ça, ça aide beaucoup pour la compréhension de saint Thomas. Si on oublie ça, je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Mais évidemment, comprenez bien, c'est pas le cocktail des trois. Hein. Alors on pourrait dire 70% d'Aristote, 20% d'Augustin, 10% de Denis. Puis on fait la mayonnaise. Hein. C'est surtout pas ça. Et puis ne faites pas non plus par le nombre de citations. Parce que ce serait très curieux. Parce que les citations de saint Augustin, j'ai oublié moi, parce qu'il ne faut jamais oublier ça, le nombre de citations de fois où saint Thomas cite Aristote et le nombre de fois où saint Thomas cite saint Augustin, vous verrez que c'est évidemment, c'est les deux qui citent le plus. Indépendamment de l'écriture, c'est bien évident. Mais je ne sais pas, je pourrais vous dire le nombre, c'est facile, il suffit de ça. La machine à calculer. Saint Augustin écrit ces trois choses, le mode, l'espèce, l'ordre, sont des biens généraux dans tout ce que Dieu a fait. Aussi là où est ces trois choses sont ou là où ces trois choses sont grandes, il y a de grands biens. Là où ils sont petits, il y a de petits biens. Là où ils sont nuls, il n'y a pas de bien. Alors, c'est une fameuse chose très étonnante de saint Augustin, qui est une des choses que saint Augustin aime beaucoup. C'est un des aspects très importants de saint Augustin. C'est le mot douce. Species. Mot douce. Species et ordre. Saint Augustin considère que ce sont là comme généralia bonum, comme généralia, comme des éléments qui sont toujours présents dans le bien. Modus species ordo. Le bien implique toujours un modus species ordo. Alors, ça c'est strictement augustinien. Eh bien, saint Thomas va l'assimiler avec Aristote. Il va y avoir une manière extraordinaire. Les vaches grasses qui vont manger les vaches maigres, vous voyez, ça va être très curieux à voir ça, parce que c'est quelque chose comme ça qui va se faire, qui va arriver à ce point de vue-là. Revenons-en à nos définitions premières. Ça, c'est la glose marginale. Une chose est réputée bonne. Il faut dire que chacun, unum comprenit, dicitur bonum, le legetai, in quantum est perfectum. Donc, chacun est dit bon en tant qu'il est parfait. Ainsi, en effet, appétible, et ainsi, en effet, il est appétible. Le parfait est dit celui à qui il ne manque rien selon le mode de sa perfection. Comme donc tout être est ce qu'il est en raison de sa forme, donc est ce qui, le parfait est ce qui ne manque de rien selon le mode de sa perfection. Comme donc tout être est ce qu'il est en raison de sa forme. Et comme toute forme a ses présuppositions et ses conséquences nécessaires, il faut, pour qu'un être soit parfait et bon, qu'il ait à la fois sa propre forme, ce qui est pré-exigé par cette forme, et enfin ce qui en découle. Vous voyez bien les trois moments, hein ? Très très intéressant. Or, toute forme d'être préexige l'exacte détermination ou commensuration de ses principes, soit matériel, soit efficient. Et c'est ce qu'on exprime par le mot douce. C'est pourquoi, d'après saint Augustin, c'est la mesure qui prédétermine le mode. La forme elle-même est signifiée par l'espèce, car chaque chose est constituée dans son espèce par sa forme. C'est pourquoi il est dit que le nombre fournit l'espèce. La raison en est que, d'après le philosophe, les définitions spécifiques s'établissent comme les nombres. Oui, c'est un... Vraiment, là, c'est le cocktail le plus parfait qui soit, n'est-ce pas ? Et tout va se rétablir dedans. Si vous y retrouvez, vous êtes intelligent. En effet, comme l'unité ajoutée ou soustraite au nombre en fait varier l'espèce, ainsi, dans les définitions, une différence jointe ou soustraite. Pour finir, la forme à titre de conséquence, cette fois, implique l'inclination du sujet vers une fin, vers une action ou quelque emploi semblable de son être. Car tout ce qui est en acte agit et tend comme tel, vers ce qui lui convient, selon sa forme qui détermine son acte. C'est cela qu'on exprime par ces deux termes équivalents, le poids, l'ordre. On voit donc que la notion de bien selon qu'elle se rattache à celle de perfection, consiste, comme le veut saint Augustin, en mode, espèce et ordre. Vous avez tous compris. C'est très curieux, ça. C'était une chose très, très curieuse. Hein. Mais le souci de saint Thomas, c'est pour ça que je dis, c'est le souci de saint Thomas de comprendre ce que saint Augustin nous dit. Saint Augustin a cette parole de l'Écriture qu'il aime beaucoup, qui est une des paroles de la sagesse. Toutes choses sont faites avec mesure, poids et nombre. Alors, vous comprenez le mot douce. Species. Et puis, le pont douce. Je vais mieux le dire en latin. Parce que le poids, hein, français, ça ne va pas très bien. Avec le pont douce, ça va mieux. Le pont douce, c'est le point de vue, le poids. C'est l'ordre. Mon amour et mon poids. C'est ça le pont douce, c'est le poids. Une âme qui n'aime pas, elle est légère. Une âme qui aime, elle est lourde de son amour. C'est le poids, pont douce. Alors, toutes choses sont faites par Dieu avec mesure, nombre et poids. C'est la sagesse qui mesure tout, qui implique la détermination, qui implique le poids. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Il ne faut pas oublier l'origine de la révélation sur laquelle saint Augustin va réfléchir et traduire ces expressions de l'Écriture, mesure, mesure, nombre, poids. Il va le traduire à sa manière, néoplatonicienne, et saint Thomas va assumer tout cela en aristotélisme. Mais ça fait quand même un beau cocktail. Hein. La Révélation, les livres de la sagesse, saint Augustin, Aristote, saint Thomas fait ça. Il a rassemblé trois. Ça, c'est des passages très importants pour saisir le génie de saint Thomas de dépasser les mots pour rejoindre la réalité. Ça, c'est génial, à sa manière, hein, faisons attention. On pourrait à partir de là faire des syncrétismes effrayants. Hein. Vous voyez, ça frôle le syncrétisme, hein, ça frôle. Alors à partir de là, on pourrait dire, mais ça y est, on peut tout mettre dans tout. Non, non, non. Mesure, nombre, poids. Alors tout ça traduit en aristotélisme par le point de vue de la forme. La forme implique des dispositions et la forme a sa propriété. Alors ça, les aristotéliciens se retrouvent tout de suite. Hein. Les aristotéliciens se retrouvent tout de suite en disant que pour qu'une forme puisse exister, il faut les dispositions. Ce qui est présupposé pour que la forme apparaisse, il y a nécessairement des présupposés. Et alors ces présupposés sont de l'ordre de la disposition. Quand la forme est présente, il y a la propriété. Et ça, c'est la grande parole d'Aristote. C'est Aristote voit ça dans toute forme qui devient. Avant, c'est très beau du reste, c'est la réalité profonde, vous voyez, ce n'est pas la dialectique, hein. C'est ça qui serait très intéressant à voir la différence avec la dialectique, parce que il y a quelque chose qui pourrait se dire, mais c'est très proche. Une fois que la forme est présente, la disposition se transforme en propriété. Alors, vous comprenez là le langage et le passage de l'un à l'autre. Je peux considérer toute forme, c'est la détermination, c'est l'espèce. Species et forme, évident. On voit très bien. L'eidos, hein. Pour comprendre la chose, il faut revenir au grec. Hein. Alors comprenez le grec, eidos. La forme, c'est eidos. La species, c'est eidos. Hein. Donc, la forme, c'est la détermination. C'est ça qui commande tout. C'est ça qu'il faut voir. La disposition, elle est mesurée par la forme, modus. qu'elle est mesurée par la forme. Forcément. Une disposition est en vue d'eux. Quand je dispose quelque chose, c'est en vue d'eux. Quand je laboure une terre, je laboure en fonction de mettre des pommes de terre ou des navets, n'est-ce pas ? Donc c'est mesuré par la forme. La disposition est mesurée par la forme, puisque c'est la forme qui détermine pleinement. Donc la disposition, c'est vos douces. Et la propriété, c'est l'épanouissement plénier de la forme, c'est l'ordre vers la fin. C'est par la propriété que je touche la fin. Donc c'est l'ordre vers la fin. Donc vous voyez par là comment on va saisir ce que représente une forme parfaite. La forme parfaite, c'est le bien. Puisque le bien implique la perfection. Donc vous avez Aristote, le néoplatonisme, la révélation et ça. Jésus, le fruit de vos entrailles.